Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio dans quelques instants, on est ravis ce matin de recevoir Evelyne Bouix, nouvel opus de la collection Meurtre A, dans lequel elle est évidemment formidable. Et puis on parlera de ses aliments, de manger du faux pour de vrai, ce sera à 10h30. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble jusqu'à midi pour le 10h midi. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie Expert.
Et on est ravis de recevoir
c'est
ce matin
je vous aime,
Gilles. Gilles, merci. Evelyne Bouix, bonjour Evelyne.
Bonjour Valérie.
Merci d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes rare dans les médias, donc c'est d'autant plus sympa que vous soyez venu ce matin sur Sud Radio. On va parler de votre rôle dans cette série, dans cette, cette collection qui cartonne Meurtre A sur France 3. Le samedi soir, souvent même devant The Voice, absolument. Vous allez bien ?
Je vais super bien.
Oui, bien. Le théâtre a été.
Le théâtre a été. Et on joue, et on joue plus, et je voulais plusieurs fois de suite. Donc c'était un petit peu déprimant. Et puis je pense qu'on va jouer à la rentrée. Et que...
Enfin, il faut l'espérer, oui.
Bah ouais, je l'espère. Ouais, en fait, ouais. Je suis plutôt positive. Moi, je me dis que ça va le faire. Voilà, qu'il y aura tout le monde à la rentrée et ça va être un embouteillage, mais que bon, c'est comme ça.
C'est ce qu'il faut dire. On va en reparler dans un tout petit instant. Vous la regardez, la télévision, Evelyne Bouix ?
Ah oui. Ouais. Oui, oui.
Vous regardez quoi ? Les fictions
Je regarde les fictions. Je regarde la série Meurtre A, par exemple. Ouais. Ça, je la regarde. Ouais. C'est pour ça que j'étais contente d'en faire un. Autrement, je regarde beaucoup de cinéma ou des reportages. C'est le sport que je regarde pas trop et la politique en fait.
Et vous regardez Capitaine Marlowe ou pas ?
Oui, bien sûr, j'en ai fait un aussi, Capitaine Marlowe. Non, ce que j'aime bien, c'est regarder les trucs que j'aime et à un moment donné en faire un. Ça me plaît énormément.
Mais Capitaine Marlowe, vous l'avez jamais fait ?
Si, j'en ai fait un. Oui, avec Jean-Luc Anglade et c'était très sympa. Bon. Voilà.
Et là, Meurtre A, vous êtes une flic un peu étrange, on va dire.
On va dire un peu mystérieuse.
Un peu mystérieuse. On va en parler dans un instant.
Et par rapport à Corinne Maziero, vous qui avez souvent pris des engagements, c'est quelque chose qui vous a choqué sur les Césars ou pas ?
Alors, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu les Césars, sincèrement. Non, mais en plus, non, Corinne, et puis elle est comme ça, je veux dire, il y a quelque chose qui est roots chez Corinne, et elle assume qui elle est, et tout ça. Donc, à partir du moment, peut-être que ça aurait été quelqu'un d'autre, ça m'aurait dit qu'est-ce qu'elle fait là, mais je trouve que c'est cohérent. Ce qu'elle a fait est cohérent avec ce qu'elle est. Voilà. Ouais. Mais j'ai pas
c'était
vu.
C'était peut-être pas le bon endroit, ou le bon moment.
Non. Mais alors ça, c'est une conception, à mon avis, plus qu'autre chose. C'est une conception de ce qu'ils ont fait. Je ne l'ai pas vu, donc c'est difficile de porter un jugement. Mais j'ai vu des retours.
Des images.
Des images qui me paraissaient, pas ce que je préfère. Mais,
cinéma.
Mais je n'ai pas vu, donc c'est un peu compliqué.
Alors,
la question du jour, Valérie, vous n'avez pas pu échapper à ce retour de
Michel
Drucker,
absolument.
Qui a été évidemment énormément médiatisé. Et puis, écoutez, il a fait pas mal une audience correcte, il a fait 1,5 million. C'est un bon retour à 12,4%. Il faut dire qu'en face, il avait le match France-Kazakhstan, qui a fait 37% de part de marché.
Ouais,
donc, quand on est en face d'un match de foot de l'équipe de France qui a fait 4,5 million un dimanche après-midi, c'est plutôt un bon score. On vous a posé la question, est-ce que vous êtes content du retour de Michel Drucker ? Bon, je pense que les gens répondent parce qu'ils répondent, mais c'est non à 79%, oui à 21%. Place aux jeunes, nous écrivent en substance nos auditeurs. Et puis d'autres nous disent, il n'y a pas plus important en France. Bah si, il y a plus important, on est une émission média, alors on parle média. Voilà pourquoi.
Mais c'est un peu l'événement du week-end.
Mais sur toute la journée et sur toute l'antenne de Sud Radio, vous avez plein de questions politiques, Twitter, absolument. Avec les vraies voix, avec la matinale de Patrick Roger. Donc, vous aurez plein d'autres questions qui ne seront pas des questions
médias. Vous le regardez ? Vous l'avez regardé hier ?
Non, mais je ne l'ai pas regardé, mais j'aime beaucoup Michel. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Donc, non, je ne l'ai pas regardé parce que je ne regarde pas tout le temps la télé.
Vous regardez le foot, voilà.
Non, c'est ça, le foot.
Non. Et donc, effectivement, ça a été quand même l'événement. En tout
Média,
cas, sur France
absolument.
Télévisions, il a été un petit peu partout. Le zapping.
Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping.
Alors elle aussi, on l'entend et on la voit partout, c'est vraiment l'actu média de ce week-end. L'interview d'Audrey Poulvar par Apolline de Malherbe sur BFM a interrogé sur les réunions semblant à l'UNEF. Sa réponse a fait l'effet d'une bombe.
préfère les réunions réservées A que les réunions interdites A. Mais c'est-à-dire
pardon,
que si...
Non, non, là, mais, non, non, je ne joue pas sur les mots.
Non, je vais vous dire pourquoi je ne joue pas sur les mots. Si il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, etc., etc., ben, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire. On peut lui demander d'être spectatrice ou spectateur silencieux.
On peut lui demander de se taire.
Oui.
Alors, c'est une bombe à fragmentation. Hein. Oui. Ça tue tout sur son passage.
On va en parler tout à l'heure.
Vous
arriverez
sur le débat. Est-ce que les Blancs doivent se taire à des réunions non racisées. Hier vendredi, on recevait Lynn Renaud, Valérie, pour le site d'Action, c'était notre invitée, qui a réussi donc à collecter plus de 4 400 euros. Les 35 ans du site d'Action ont aussi été l'occasion de rappeler l'hécatombe des morts au début des années 80 et comment, à l'époque, les personnes atteintes du sida étaient pestiférées. Archives.
Je m'accepte tel qu'en tant que malade, en tant que séropositif. Comme diraient beaucoup de gens, en tant que pestiféré, bah, si ça leur plaît ou non, moi je suis pas un pestiféré, je suis un malade.
J'ai pas de moyens, je n'ai pas d'argent. J'ai perdu tous les copains que j'avais parce que j'ai avoué à certaines personnes que j'avais le sida. On m'a acheté, c'était l'exclusion. Et j'avais peur.
Mes parents, mes amis ont su que j'avais le sida très rapidement. Et même ma propre mère n'a pas osé me toucher ni m'embrasser pendant trois semaines et un mois. Personne, ni mon ami. Mon ami me touchait du bout du doigt comme ça sur le front.
Vous avez connu les débuts des années sida?
J'ai plein d'amis qui sont morts, surtout du sida. J'ai plein de potes qui sont morts avec des kaposis énormes sur le visage. C'était une hécatombe, j'ai perdu plein de potes, vraiment.
Regardez sur Canal la série It's a Sin. Pourquoi vous en avez un extrait?
Non, c'est ce que j'allais dire.
It's a Sin, c'est une série en 5 épisodes. C'est sur Canal+.
Absolument.
Et ces années, le début du sida en Grande-Bretagne, ces années 80 où on ne sait pas ce que c'est, où on a très peur, et où en même temps il y a une forme d'inconscience. C'est formidable. Vraiment, regardez cette série qui est très bien faite.
C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Une série percutante de récits. Le T. Davis, c'est une vraie pépite. Sur ce virus qui se propageait, le cancer gay, comme on disait à l'époque. Le coach de The Voice et chanteur Vianney était l'invité de Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8 sur TF1. Alors, il a fait une confidence rare, je ne sais pas si vous l'avez vu, Valérie, sur le fait qu'il soit catholique et pratiquant. Il a parlé de son amour de la religion catholique. On n'est pas habitué à entendre ça. Confidence du chanteur.
Vous êtes à contre-courant.
Ah bah ça c'est sûr que je suis tout seul dans mon délire. Je vois pas de gens du métier. Si en plus j'en vois 2 ou 3. Mais qui se cachent, Je leur en veux pas, mais c'est vrai que moi j'ai toujours pensé qu'il fallait assumer ce qu'on était, qui on était. Bien sûr que ça a posé question et tout quand j'assumais mes croyances. Mais franchement, j'en ai jamais souffert. Bizarrement, je remarque, les gens de confession musulmane ont plus de facilité à l'assumer qu'ils croient, qu'ils pratiquent. En revanche, la limite, c'est d'essayer de convaincre les gens. Il faut pas essayer de convaincre, de convertir comme ça. On n'est pas là pour ça. Ça fait partie de nous, c'est notre chemin personnel.
C'est vrai que les artistes ne disent pas forcément s'ils sont catholiques ou pratiquants. Comme ils disent, ils se cachent. C'était un témoignage fort de Vianney hier. La France a vaincu le Kazakhstan, Valérie, pour la sélection de la Coupe du Monde. Alors après le match, le sélectionneur Didier Deschamps pensait savourer toute sa victoire quand un journaliste kazakh lui a posé une question sur l'absence de Karim Benzema en équipe de France. Vous allez voir, il a assez halluciné.
Est-ce que vous allez...
Non. Même ici. Allez, on restera sur les autres questions. Oh oui, il y en a un qui vous l'a soufflé. C'est un journaliste français qui vous a soufflé la question.
Il n'y a pas cru. Hein.
Non.
Et puis pour finir, notre amie Sandrine Staroche qui est sur Paris 1ère.
Vous la connaissez, Evelyne? Sandrine Staroche.
Sandrine Staroche, une comique plutôt drôle.
Humoriste. Ouais.
Humoriste et qui fait des papiers chaque semaine chez Zemmour et Nolo chez Paris 1ère le mercredi soir. Et elle pastiche en fin de séquence ou en début de séquence une chanson qu'elle met au goût du jour, vous allez entendre.
Et là, c'est quoi?
Cette fois, c'était les crayons, vous savez.
Oui.
Et aussi des crayons de Bourvil. Vous allez voir, ça donne. Et aussi des attestations.
Ça faisait déjà un an que notre vie était foutue quand le chef du gouvernement nous a dit d'un ton ingénu: pour acheter ton journal, faut une attestation. Pour te payer un casse-dalle, une autre attestation. Les braves gens étaient perdus. C'est quoi la bonne version? Déjà qu'ils en pouvaient plus, qu'on les prenne pour des cons. C'est ça qui est triste.
Très
drôle, très drôle et très talentueuse.
Sandrine Saroche.
Vous chantez? Evelyne, non, vous avez déjà chanté
dans un spectacle.
Dans un spectacle.
Oui, ouais. Oui, il y a longtemps.
Il y a longtemps.
C'est très jouissif de chanter.
Ouais, bah, il faut savoir chanter.
Ah oui, de savoir. Enfin, je suis pas chanteuse, mais je trouve que c'est un grand kiff, quoi, de chanter. C'est vraiment génial, quoi. Comme de danser.
Ouais. On va vous retrouver donc samedi soir dans un nouveau numéro, nouvel opus de la collection Meurtre A. Donc là, on est en Bretagne. Alors le film, c'est vraiment une ambiance. Hein. Tout de suite, dès les premières images, on est dans les vagues, la mer, la Bretagne, le vent, absolument.
Les embruns.
Mais c'était le premier jour de tournage. En fait, c'est la tempête, c'est le premier jour. Donc l'équipe se connaît à peine et on est carrément à la pointe du raz. C'est-à-dire, il n'y a rien du tout à 360 degrés. Donc que l'équipe, on ne peut pas se protéger, on ne peut pas s'asseoir et il y a des grêles qui nous arrivent sur la figure. Donc tout de suite, on est dans le bain du film, quoi. C'était, ça nous a soudés immédiatement. Et c'était apocalyptique.
Ah oui, c'est ce qu'on ressent dès les premières images. On va pas trop dévoiler parce que
Il y a de l'intrigue.
Il y a vraiment de l'intrigue. Vous jouez une commandante qui arrive fraîchement débarquée. Ah bah pas mal. c'est vrai que c'est un rôle qui vous va bien. Alors vous avez une épaisseur dans le film parce qu'évidemment vous pouvez pas être aussi lisse qu'on pourrait l'imaginer. Heureusement. Voilà. Et donc c'est un rôle assez étonnant dans lequel on vous attendait peut-être pas forcément.
Oui. Ouais. C'est un rôle qui m'a. Enfin, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas, mais c'est un rôle qui m'a séduite parce que justement, elle était pas lisse.
Ouais.
Et qu'en même temps, a priori, on ne sait pas. Elle est un peu mystérieuse. Elle est un peu réservée. Et en même temps, je pense que elle connaît très bien son métier. Mais bon, elle a du recul par rapport à certaines choses. Quoi.
Ouais. Alors, tout ce qui est en Bretagne fonctionne. Hein. Là, on est vraiment sur les légendes celtes, sur à la fois de la magie noire, plein de choses que je ne peux pas raconter. Vous découvrez ça samedi. Vous croyez, vous, à ces légendes?
Vous
avez eu peur là-bas?
Non, moi j'ai peu peur, mais je vais vous dire un truc qui m'est arrivé personnellement. C'est pour ça que moi je crois énormément. Bon, là, l'Ancouche, c'est très particulier. C'est quand même des légendes. Je ne sais pas si je croirai à ça, mais je vais voir une maison. Je vous la fais vite. Je vais voir une maison à un moment donné. Je rentre dans la maison. J'étais avec J'étais avec mon mari et un mec qui vend les maisons.
Oui, un agent immobilier.
Immobilier. Ouais. Donc je sors et je déteste cette maison. Mais je déteste cette maison. Et Pierre me dit, mais pourquoi tu sors comme ça? Et il me dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Et je sors de la maison et je dis à l'agent immobilier, mais je déteste cette maison. Il me dit, mais oui, tu sais pourquoi? Et il me dit, en fait, il faisait de la magie noire dans cette maison. C'est trois sœurs qui faisaient de la magie noire. Et je redis, je déteste cette maison. Et il y avait un muret en pierre Molière qui me tombe sur le pied. Donc, j'y crois totalement.
Mais comme tous les comédiens, vous avez des gris-gris ou des choses avant d'entrer en scène?
Moi, je suis très prière avant d'entrer en scène.
C'est vrai?
Ouais, je suis ma prière. Je suis comme un peu Vianney, quoi. Il y a un petit côté comme ça.
Et Pierre Arditi?
Pas du tout. Enfin, je ne sais pas. Peut-être
je ne sais pas s'il a des...
C'est des jardins secrets.
Il est plus secret que moi, parce que moi, je peux pas vivre sans. J'ai tellement peur, mais je pense qu'il a beaucoup moins peur que moi. Ouais.
Donc vous êtes très croyante, comme Vianney.
Oui, je suis croyante.
Mais c'est vrai qu'on en parle assez
peu.
Les comédiens
en
parlent
assez peu. C'est ma croyance à moi, mais je suis croyante.
Mais c'est vrai que ce que vous racontez est très perturbant.
Comment
ce que vous venez de raconter est perturbant, c'est-à-dire de ressentir.
Je comprends très bien que d'un seul coup, c'est tellement fort, c'est tellement dans les racines de ces gens-là, ça date de siècles et des siècles, qu'on peut y croire et qu'on peut... Et moi, je ne serais pas allée, je ne vais pas vous dire où ils vont, mais dans la maison où ils vont, moi, je me serais partie comme j'ai fait dans la maison que j'ai visitée, moi. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est sûr.
Il faut dire qu'ils s'en passent dans la maison.
Donc ils s'en passent beaucoup et je comprends que...
Ouais.
Voilà.
Ouais. Sur les légendes celtes.
Et Stéphane dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Evelyne Bouix. Alors, il vous appelle Evelyne. Vous appartenez au public. Découverte dans les uns et les autres. Grosse claque à l'époque. Alors, depuis, vous avez fait du chemin.
C'était long time.
On est content de vous revoir, effectivement, à la télévision. Télévision, cinéma, pour vous, aujourd'hui, c'est...
Non, c'est télévision, télévision et beaucoup de théâtre.
Ouais.
Pourquoi pas le cinéma? C'est à cause de votre âge?
C'est sympa comme question. C'est rugueux comme question. Je pense que je suis très
surtout posée comme ça.
C'est le combat de Valérie qui dit que c'est très compliqué dans le cinéma français.
Après 50 ans, c'est vrai qu'on a des comédiens qui nous disent que c'est plus compliqué.
Oui, non, je pense que c'est même pas ça. Je pense que c'était avant ça que j'ai pas fait de cinéma. Il y a bien longtemps que j'ai pas fait de cinéma. Donc je pense que le cinéma, j'en ai pas fait depuis très longtemps. Je pense que c'est plus un problème de réseau. un problème de réseau, enfin, d'équipe
d'avoir la carte,
et tout
comme
ça. Oui. C'est plus ça, un problème de réseau, je dirais, parce qu'il y a quand même des rôles de vieille, hein. Il y a quand même des rôles de femme, de grand-mère.
Surtout que vous
ne faites, faites pas du tout votre âge.
Oui,
non, enfin, non, vous faites, non, mais non, vous êtes
peu
très
importe,
mère,
je suis grand-mère et tout ça. Donc, il y a forcément des rôles de mon âge, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc,
Gilles,
voilà.
bien gaffeur.
Non, pas du non. tout, pas du
mais,
tout.
Mais,
non, mais par contre, à la télé, il y a des rôles de
bah, la de prof, femme, oui,
mais il y a des rôles. Moi, j'ai fait des rôles de personnages que la télé offre des rôles pour les femmes qui sont.
Qui sont différents de ce qu'on peut avoir de
sauf
ce qu'on peut
si
avoir
on est Isabelle Huppert ou Charlotte Rampling ou je sais pas. Voilà.
C'est et à la télévision, il y a effectivement aujourd'hui des beaucoup de fictions de grande qualité.
Oui,
hein, quand
mais
on voit,
magnifique même, magnifique.
Quand, quand on voit ce qui est fait aujourd'hui,
oui, ça a beaucoup évolué,
en particulier
la télévision.
France Télévisions, on peut rendre
bien
hommage
sûr.
À Anne Holmes qui,
ah,
a,
bah, je lui
qui a complètement
tire mon chapeau
bousculé,
à Anne Holmes. Anne, je te tire mon chapeau.
Voilà. Non, non, mais
non, parce que c'est grâce à elle que j'ai fait j'ai fait le meurtre, parce qu'en fait on avait un projet ensemble qui n'a pas pu se faire pour des raisons diverses et du coup on a parlé de meurtre et je lui dis ben écoute, et elle m'a dit, bah, tu veux faire un meurtre? Mais j'ai dit, j'avais
rêve.
Tellement envie d'en faire un, parce que je les regardais, que ça serait... voilà, et donc ça s'est fait comme ça, en
mais
fait,
c'est vrai qu'elle a bousculé quand même la fiction.
Elle a bousculé la fiction.
Elle a osé sur des choses
osé,
très différentes.
Il y a beaucoup de femmes, elle a employé beaucoup de femmes, et pas forcément des jeunes femmes, donc vraiment, bravo.
Et puis il faut dire votre partenaire, hein, David Kamenos, qui est juste incroyable.
Ah, il est juste sublime.
Il y a
hein.
des plans incroyables sur lui, où il ne dit rien, et tout passe à travers son regard.
Et puis il est jeune, lui.
Mais non, mais en plus je suis pas comme ça, c'est incroyable.
David,
non, mais je vous
en prie.
Nadia, c'était la façon un peu brutale de poser la question, Gilles.
Ça fait 4 ans que je travaille avec une vieille.
Voilà, bah, je vous remercie. Nadia, on peut les citer, hein, Nadia Rose, Cécile Brune, Juliette Avert, Frédéric Epau, Stéphane Grossi. On va pas.
Nadia Rose est très drôle, hein, elle a un rôle décalé,
elle est très drôle,
elle est très rigolote.
Voilà. Et puis le producteur aussi qu'il faut citer parce qu'il était formidable aussi, François Aramburu. Et le metteur en scène aussi.
Voilà.
Donc, et le metteur en scène.
Le metteur en scène que je n'ai pas. Que je n'ai pas. Bravo, Gilles.
Bon, on est en pleine forme.
Mais c'est important, effectivement, d'avoir d'avoir ce type de contact, de rapport avec toute une équipe. Quand vous dites le producteur, le réalisateur, les gens n'imaginent pas forcément.
Oui, parce qu'on était quand même dans un endroit, c'était pas. Le super confort dans ces endroits-là, quand il y a la tempête, les machins. Donc, si on n'a pas envie de faire le même film ensemble, si on n'est pas vraiment, c'est un problème, quoi.
Ouais.
Donc là, ça n'y était pas du tout.
Et quel rôle vous aimeriez qu'on vous propose que vous n'avez jamais fait jusqu'à maintenant?
Alors, en fait...
ça dépend, c'est une question...
Non, ça dépend. J'aimerais bien faire une tueuse, j'aimerais bien faire... je pourrais faire quelqu'un de... Mais vous savez, ce que j'aime bien chez les Anglais, par exemple, c'est que vous avez des choses, mais elle est alcoolique, elle fait des choses, mais en même temps, ils ont des défauts, quoi. Ou alors, on croit que c'est cette personne-là, mais en fait, c'est quelqu'un d'autre. Ce que j'aime beaucoup chez les... Voilà, c'est un peu noir, mais j'aime... Là, je vais faire une comédie pour France 2. Et avec un Antoine Duléry comme partenaire que j'adore. Ah. Mais bon, c'est plutôt un film avec des jeunes. Nous, on fait les parents. Mais bon, si vous voulez, c'est une comédie. Donc, je suis très contente de faire ça aussi. Puis, c'est une femme qui n'est pas forcément gentille.
Là, j'avais une question. Qui a été choisi en premier, vous ou David Kamenos? Ou vous demandez qui est mon partenaire? Comme là, vous citez votre partenaire.
Non, là, j'étais. Bah, c'est-à-dire que, tandis que ça s'est fait comme ça avec Anne et avec le producteur, j'avais envie de travailler aussi avec François Aramburu. Donc ça s'est fait comme ça, on a dit bon bah alors on fait ça. Donc j'étais la première choisie, mais après c'est pas moi qui ai choisi les autres acteurs.
Mais vous faites attention à ça, j'imagine.
Bah non, en fait je fais confiance aux gens qui avec qui je travaille.
Oui, parce que vous connaissez pas forcément les comédiens.
David, je le connaissais pas en fait du tout, parce que je regarde pas la télé non plus à ce point-là. Donc voilà, et bon, il se trouve qu'il y a eu un déclic immédiat de comment on s'entend, donc c'était formidable. Mais
c'est un scénario de Mathieu Savignac, réalisé par Laurent Dussault.
Laurent.
Et produit par François Aramburu et Pascal Fontani. Donc on peut les citer aussi parce
Pascal,
que tout ce qui...
Oui, c'est des très bons producteurs.
Le théâtre, vous pensez, vous espérez pouvoir... vous aviez une pièce en cours ou pas quand le Covid est arrivé?
Oui, alors on avait une pièce en cours avec... enfin, qui n'était pas encore... on n'avait pas encore joué, on était au filage. Les bouts des répétitions. Donc, c'est une pièce, vous voyez. Ça sera une pièce de Salomé Lelouch, qui est ma fille.
Oui, hein,
et elle a écrit pour nous une pièce pour Pierre Arditi et moi-même. Donc, on est tous les deux sur scène. Ah. Ouais, c'est très drôle, parce qu'il y a des chansons, c'est vraiment très drôle. Et en même temps, très iconoclaste, en fait, assez irrévérencieux. Donc voilà.
Et c'est dur quand ça s'arrête, j'imagine. Vous êtes en répétition.
Ah bah c'est horrible. On joue la semaine d'après. Et puis en fait, on attend les réunions, les trucs. Bon, c'est reporté. Puis nous, on est au taquet, quoi. On n'a qu'une envie, c'est de la jouer. Et ben non, vous la jouez
pas. C'est un plaisir ou c'est compliqué de jouer avec son compagnon ou de jouer avec Pierre Arditi?
Des fois c'est génial et puis c'est plutôt génial, hein, autrement on le ferait pas, mais bon, c'est comme toutes les trucs de travail, quoi. Il y a des fois parce que il y a ceci, il y a des rythmes qui sont différents, mais c'est de toute façon formidable à l'arrivée parce que on a envie de le faire. Et puis là, c'est vraiment ce qu'on appelle un travail en famille,
c'est absolument Meurtre à la pointe du rat. Donc ce sera samedi à 21h05, on est ravis de vous retrouver. C'est toute une ambiance, franchement, je vous le conseille. On rentre dedans dès les premières images avec ce vent, ces vagues, ce personnage qu'on retrouve une femme qu'on retrouve morte.
Et puis après, on est pris par la main. Il y a plein d'intrigues.
Absolument. Merci beaucoup, Evelyne Bouygues, d'être venue ce matin.
Merci infiniment.
Et puis on espère vous voir très vite au théâtre.
Merci
à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Sud Radio, c'est comme ça que vous l'aimez.
Je voulais prendre le temps de vous féliciter pour la qualité de vos débats, de chacun de vos débatteurs.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, l'œil de l'expert.
Avec vous sur Sud Radio, l'expert ce matin. L'experte, c'est Ingrid Kral. Bonjour.
Bonjour.
Je l'ai bien prononcé ?
Oui, parfait.
Voilà. Alors, vous venez de publier « Manger du faux pour de vrai, les scandales de la fraude alimentaire ». C'est paru chez Robert Laffont. Je précise que vous êtes directrice de l'ONG Foodwatch France. Ce livre, « Manger du faux pour de vrai », c'est presque un polar. On est, dès les premières pages, on se dit que c'est absolument pas possible, tout ce que vous racontez dans ce livre. Alors, on a entendu, on se souvient de scandales alimentaires, les lasagnes au cheval et d'autres, mais ils ne font pas toujours la une de l'actualité. Et ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que tous les types de produits sont touchés. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, bon, ben, ça va, je ne mange pas de produits transformés.
Sauf que... moi aussi, en fait, je me suis dit même chose. Ça fait des années que je travaille chez Foodwatch. Et donc, je me suis dit, bon, moi, je suis aguerrie à la lecture d'étiquettes, on ne me la fera pas. Et puis, bon, on vit en France, quand même, patrie de la gastronomie. Ouais. On s'est dit qu'on était plutôt à l'abri des fraudes alimentaires. Est-ce que mon enquête démontre, tant au niveau français qu'européen, et même parfois en faisant des petits détours par d'autres pays européens, c'est que personne n'est à l'abri, en fait. Tout le monde mange et tout le monde est potentiellement exposé
à de la fraude alimentaire.
Ça va du rayon sel et poivre des denrées a priori bon marché jusqu'au foie gras, champagne, etc.
Ça, c'est dingue. Le poivre, on va donner des exemples parce qu'il faut que nos auditeurs achètent votre livre et le lisent, parce que le poivre, 54% du poivre...
59, Valérie.
59. J'ai mal noté. 59% du poivre est coupé par du sable.
Ce sont les contrôles de la répression des fraudes. Hein. Ce ne sont pas des chiffres que moi je tire du chapeau. Tout le bouquin est extrêmement documenté et sourcé. Donc c'est vraiment des chiffres qui viennent de rapports officiels. Parmi les contrôles, ils ont trouvé presque 2 sur 3. Donc c'est énorme. Moi, personnellement, j'aimerais savoir si celui que j'ai chez moi est frauduleux ou pas.
Et on ne le sait pas. Et ça, c'est votre combat aujourd'hui. Il y a une pétition qui a été lancée, d'ailleurs.
Sur foodwatch.fr.
Voilà, où il faut aller pour demander au pouvoir public plus de transparence. Parce que ces chiffres que vous donnez, vous le dites, ils viennent de la DGCCRF, la Direction Régionale de la Consommation et de la Répression. Bref, c'est la répression des fraudes. Donc ça existe, il y a des données, sauf qu'on ne sait pas qui sont les industriels qui fraudent.
Exactement, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de données qui sont issues de rapports officiels. Et chez Foodwatch, on en fait l'expérience depuis des années. À chaque crise sanitaire, problème alimentaire, on demande des informations parce qu'on a le droit de savoir, surtout quand potentiellement on est exposé à un danger pour la santé, et bien chaque fois c'est feint de non-recevoir. Les autorités refusent de communiquer et on ne comprend pas pourquoi. À l'exception d'un domaine, étonnamment, c'est quand il s'agit du vin. Mmh. La répression des fraudes a un département qui est particulièrement focalisé sur les vins et spiritueux. Et là, quand ils débusquent des fraudes, ils n'hésitent pas en fait à communiquer les noms des entreprises, le type de fraude et même les sanctions. Donc on ne comprend pas pourquoi ils disposent de ces données. Ils font un job extraordinaire sur le terrain, il faut quand même le souligner, même si malheureusement ils sont sous-effectifs, hein. Ils subissent un écrémage.
C'est ce que vous dites, et ils sont quasiment à l'arrêt en plus, avec la majorité des agents en télétravail, pas très pratique pour aller contrôler, et puis surtout cette non-communication des données.
C'est ça,
Et on ne vous a jamais dit pourquoi ?
Et non, en fait, moi j'ai pas mal enquêté dans d'autres pays européens où ça se passe différemment, où les citoyens peuvent parfois télécharger, je pense au Danemark, l'Irlande, télécharger des données sur les contrôles, les problèmes d'hygiène avec force détail, les sanctions, etc. Ça met la pression. On est convaincu chez Foodwatch que cette transparence aurait un grand effet dissuasif. Et on a bien investigué, rien ne s'y oppose en fait. Cette opacité de la part des autorités en France, en tout cas, est clairement un choix politique. Et on ne comprend pas, parce que même quand il s'agit d'entreprises étrangères, les autorités refusent de communiquer où les produits contaminés se trouvent, où ils ont été vendus, en quelle quantité. Donc c'est vraiment problématique.
Vous dites que ce n'est pas une priorité politique. Vous parlez, quand je parlais de Polar, c'est qu'il y a une véritable agro-mafia. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est moins risqué que de trafiquer de la drogue, et ça rapporte beaucoup plus et c'est plus facile.
Là, je vois que vous avez bien
moi j'ai trouvé ça passionnant. C'est un sujet qui me passionne, et j'ai trouvé ça comme vous, je regarde les étiquettes, j'ai fait beaucoup d'émissions sur le sujet, et j'avoue que le livre m'a absolument sidérée.
Et oui, la probabilité de se faire coincer est tellement mince qu'en fait des réseaux criminels organisés, parfois transfrontaliers, se sont mis sur ce business qui est assez juteux, parce qu'une tomate ressemble à une tomate, un grand cru ressemble à un grand cru, un paquet de cocaïne, il n'y a rien à faire, c'est illégal. Ouais. Mais le bidouillage sur les étiquettes, les origines, les faux pesticides, un pesticide sur 7 en Europe est contrefait, donc c'est une pâle imitation qui échappe à tout contrôle. C'est un chiffre assez affolant quand on sait que 1 sur 7 en Europe, et ce sont les chiffres d'une agence européenne de la propriété intellectuelle. Ben moi, j'aimerais bien savoir où ils sont utilisés. Ouais. Et on le sait, en fait, j'ai fait pas mal d'interviews, y compris des lobbies des pesticides. Le ministère de l'Agriculture a une campagne sur ce sujet aussi, mais sauf que nous, simples citoyens, consommateurs, on n'a jamais accès aux détails sur ce qu'il y a derrière. Ouais. C'est trafic.
Alors, on parle d'huile d'olive qui sont des huiles de tournesol, on parle de mozzarella qui n'en sont pas. Alors ça, trafic de fausses mozzarella, du fromage frais périmé en provenance de Rose d'Europe de l'Est était traité avec de l'acide et de l'hypochlorite de sodium pour lui donner une apparence de mozzarella fraîche, puis fumée à l'arrière d'un camion. Le thon aussi. Alors j'ai appris qu'effectivement, il fallait se méfier des sushis.
Vous voyez des petits trous sur le thon, ce sont des aiguilles en fait qui sont dans une machine qui ressemble étonnamment aux machines dans lesquelles on contrôle nos bagages aux aéroports. Il y a quelques années, il y a eu un énorme scandale avec les plus gros grossistes thoniers d'Espagne. Ce thon est parti dans différents pays européens. Et effectivement, le thon était tellement avarié que les employés qui manipulaient ce poisson avaient les mains qui brûlaient. Tellement il était propre à la consommation, il était injecté d'additifs dangereux redonner une couleur alléchante.
Mais c'est vraiment courant, parce que je vois aussi qu'il y a eu des tests qui ont été faits par la direction des fraudes sur des poissons, des sushis dans des restaurants japonais. Ils pensaient acheter 5 variétés de poissons. Au total, il y en avait 25.
L'étude de Oceana.
Voilà, et on fait passer des poissons très bas de gamme pour du bar ou autre. De poisson.
Et ça se passe également dans les restaurants, absolument, dans les livraisons, etc. C'est une pratique malheureusement courante. Après, ce qui est difficile, c'est que nous, on n'est pas armés pour reconnaître ces fraudes à l'œil nu, d'où l'importance d'avoir accès à l'information en toute transparence.
Ouais. Alors, une auditrice nous dit « J'ai découvert ce week-end que le wasabi, en général, n'est pas du vrai wasabi ». Alors bon, vous n'avez pas enquêté sur le wasabi, mais c'est vrai que c'est cette espèce d'opacité. De temps en temps, il y a un scandale, on en parle. Il y avait eu de la viande qui avait été trempée dans de la javel aussi à une époque. Mais est-ce qu'on peut faire confiance au label, par exemple ?
Alors, moi, j'aurais tendance à penser, comme vous, qu'il faut se tourner vers des labels de qualité, peut-être vers des produits plus locaux, particulièrement depuis la pandémie. On le voit, il y a un regain d'intérêt pour... Ouais. C'est un patriotisme économique. On se dit qu'on va encourager les producteurs locaux, on se tourne plus vers le bio. Et malheureusement, l'enquête démontre que ça ne suffit pas, en fait, ça ne nous protège pas. À l'échelle européenne, 9% des IGP, les indications géographiques protégées, sont contrefaites, en fait. Mmh. Donc, c'est des fausses étiquettes, tout simplement. C'est des usurpations de ces labels de qualité. Et ça, c'est les chiffres européens. Quand on sait qu'en France, on a énormément, bien plus, je crois que c'est le pays qui en a le plus, des fromages, des vins, etc., protégés par ces labels de qualité, on peut penser que, malheureusement, on est peut-être au-dessus de 1 produit sur 10, pratiquement. C'est triste en fait parce qu'on est prêt à payer plus pour avoir de la qualité. Et puis surtout, y a énormément de gens qui travaillent bien et honnêtement sur le terrain. Il faut quand même le redire.
Comment faire la différence ?
Cette enquête en fait ne vise pas à pointer du doigt les mauvais méchants en France. Le but c'est vraiment de dire on a un problème. Y compris les producteurs locaux sont victimes de ce problème. Il faut se retrousser les manches. Comment faire la différence ? Comme je vous le dis, à l'œil nu, malheureusement, on ne peut pas.
Je vous le disais juste avant, des reportages dans diverses émissions sur du saucisson corse qui n'était pas corse, sur des huiles d'olive, des huiles de Provence qui n'en étaient pas. Vous racontez ça, c'est terrible.
Il y avait du miel corse, malheureusement, qui n'était pas corse du tout.
Mais sur l'étiquette, il y a marqué miel.
Miel corse et il ne venait pas de...
Mais alors, comment on fait la différence ?
On demande toute la vérité aux autorités. Et puis surtout, cette transparence permettra quoi ? Que les producteurs qui travaillent honnêtement et correctement ne soient pas logés, comme c'est le cas maintenant, à la même enseigne que les fraudeurs. Parce que finalement, ceux qui trichent ne sont jamais exposés publiquement, puisque le choix politique, finalement, c'est d'occulter la vérité sur toutes ces tromperies. Et c'est quand même terrible, en fait, de faire ce choix. Il n'y a aucune explication à cette opacité, vraiment. Les autorités peuvent faire le choix de la transparence. On le sait parce qu'on s'est plongé dans la jurisprudence de la Cour de justice européenne, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, il y a quand même pas mal d'experts sur le sujet et sur cette sécurité sanitaire qui disent on peut aller vers la transparence, allons-y.
Oui, mais sauf que ce n'est pas fait et le consommateur, d'une certaine manière, ça aussi c'est un de mes combats depuis quelques années, il n'y a plus de secrétaire d'État à la consommation en titre. Et ça, c'est un vrai problème. Et la DGCCRF, qui est censée faire des contrôles, vous le dites au début du livre, elle est débordée.
Et puis surtout, Valérie, elle ne s'occupe pas que de l'alimentation,
elle est sur plein d'autres choses. Et en ce moment, avec le Covid, et vous le dites aussi, il y a beaucoup de fraudes fraude au gel hydroalcoolique, enfin d'autres types de produits.
Ils sont mobilisés sur d'autres priorités. Et pendant ce temps-là, les fraudeurs, il n'y a pas photo, ben ils le savent en fait, qu'ils peuvent passer entre les mailles du filet, puisque la priorité, et on le comprend, hein, que ce soit le Covid, on le comprend que ça soit ça, mais en attendant, les fraudeurs, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Europol et Interpol, dans le domaine alimentation en tout cas, ils ont flairé le bon filon et ils y sont allés à pieds joints.
Parmigiano, Reggiano, Faux, le Bordeaux, le Prosciutto di Parma, des champagnes, c'est une fraude qui est colossale, qui se chiffre en milliards d'euros pour tous les pays européens. Manger du faux pour du vrai, les scandales de la fraude alimentaire, c'est paru chez Robert Laffont. Franchement, moi j'ai commencé à le lire en me disant bon, je vais le survoler. Ben non, on le survole pas, on lit page après page et on est scotché parce que c'est vraiment un livre choc, mais j'emploie pas souvent ce mot. Et puis j'encourage tout le monde à aller sur votre site pour inciter à plus de transparence pour ceux qui fraudent, justement, qu'on ait les noms des fraudeurs.
Sur
le site Foodwatch, on ne sait pas si les pétitions ça a un effet quelconque, mais
en tout cas, chez nous, on le voit, ça marche, ça débouche même parfois sur des vraies lois. Hein. Donc ça marche.
On va vous suivre. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Ingrid Kragl. Et puis on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Vous reviendrez nous dire s'il y a eu des résultats.
Avec
Merci
plaisir.
À vous. Merci. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.